Bonjour, bienvenue dans ce cinquième épisode de la saison du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast coproduit par une agence de presse spécialisée AEF Info et une peut-être société savante, Jérôme nous le dira tout à l'heure, en sciences de gestion, la FNEJ, pour décrypter les stratégies des écoles de commerce et de leurs pendants universitaires, les IAE. Alors Jérôme Cabille, d'abord bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de la FNEJ. J'ai dit société savante, mais je crois que ce n'est pas tout à fait ça. Expliquez-nous ce que c'est en vrai la FNEJ.
Bien plus qu'une société savante. On est au service de la communauté des sciences de gestion en France. Et parmi cette communauté, il y a des sociétés savantes.
Bon, on va dire la fondation. Aujourd'hui, c'est donc à un IAE que nous allons nous intéresser. Un IAE très unique dans le paysage, puisqu'il est quasiment le seul, ou en tout cas le premier, à être adossé à une école d'ingénieurs. Et tout cela se passe dans les Alpes, à Grenoble. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir son directeur, Philippe Protin. Bonjour Philippe.
Bonjour Sarah, bonjour Jérôme. Merci bonjour. De l'invitation.
Alors l'IAE de Grenoble fête cette année ses 70 ans, puisqu'il fait partie des tout premiers IAE, je crois, qui ont été créés dans le giron à l'époque de l'université Grenoble 2.
C'est cela.
Aujourd'hui, il fait partie de Grenoble INP, qui est en fait un consortium d'écoles d'ingénieurs, lui-même étant membre de l'université Grenoble-Alpes.
Exactement.
Donc c'est un peu comme une poupée russe dont vous seriez la plus petite poupée.
Bon, il y a plus petit encore que l'IAE.
Il y a plus petit, mais pas à l'intérieur de l'IAE.
Non, on va arrêter de faire des poupées russes.
Bon, expliquez-nous justement un peu ce mécano institutionnel, parce que ça peut dérouter les non-spécialistes. Mais en réalité, c'est aussi ça qui vous différencie des autres IAE. Quels sont vos liens avec l'université d'une part et avec ces écoles d'ingénieurs de Grenoble INP?
Alors, je ne vais pas refaire l'histoire complètement, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais il faut rappeler que le site grenoblois est un des premiers sites en France à avoir remporté un IDEX, formation et recherche. Et dans le cadre de cet IDEX, en fait, le ministère a demandé au site grenoblois de se restructurer pour tendre vers une université unique qui serait avec le statut de grand établissement. Ce projet a commencé déjà au début des années 2010. Et la fin, c'est qu'en 2020, dans cette restructuration, Grenoble IAE a rejoint un groupement d'écoles d'ingénieurs, donc l'Institut National Polytechnique de Grenoble, plus connu sous le nom de Grenoble INP. Voilà, petite histoire.
Vos liens entre l'université et avec Grenoble INP, ils sont de quelle nature?
Alors, nous sommes une école rattachée à Grenoble INP, et Grenoble INP est une composante académique de l'université Grenoble-Alpes, ce qui fait que Grenoble IAE reste une école de l'université Grenoble-Alpes, une école publique de management, et d'ailleurs on le revendique tous les jours.
Bon, alors il y a un autre élément qui a retenu mon attention en parcourant le site internet de l'IAE, c'est que vous affichez tout de suite la couleur en termes de positionnement, vous revendiquez de former des managers spécialisés. C'est écrit en toutes lettres comme ça, là où la plupart des grandes écoles de management préfèrent parler de généralistes. Donc vous êtes clairement sûr de l'expertise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, par exemple, les domaines dans lesquels vous considérez être dans le top de ce qui se fait en France?
Alors top, c'est peut-être prétentieux, mais il y a un certain nombre de classements nationaux. Et un de nos flagships, un de nos programmes phares à l'IAE, c'est le DESMA, le master spécialisé en management des achats, stratégique des achats, qui est classé numéro 1 depuis plusieurs années. Et là, oui, on peut dire qu'on a une vraie expertise locale, à la fois parce qu'on a des équipes pédagogiques qui sont compétentes, qui ont développé des recherches thématiques en lien avec les achats, mais pas que les achats, c'est-à-dire tout ce qui touche aux achats, y compris les sciences de gestion en général. Et puis, on a aussi un réseau d'entreprises, parce qu'évidemment, pour qu'un programme fonctionne, il faut aussi être soutenu par le monde socio-économique. Et là aussi, on a un gros réseau. Donc, c'est un exemple, parce que l'expertise, évidemment, c'est une de nos valeurs fondamentales. Quand on s'est posé la question de, finalement, quelles sont nos valeurs, tout de suite, ce qui est venu de nos parties prenantes, c'est l'expertise. Nos étudiants sont reconnus comme étant des experts. Alors, expert, c'est un bien grand mot, mais expert, ça veut dire qu'ils sont capables de s'insérer professionnellement et assez rapidement dans des disciplines, des sciences de gestion, la finance, les achats, le marketing, etc. Donc, on a effectivement certains domaines d'expertise qu'on va retrouver dans la plupart des écoles de commerce, ou en tout cas dans les IAE publics, puisqu'ils sont structurés tous à peu près de la même façon. Et en parallèle, on peut avoir quand même des programmes qui sont plutôt généralistes, sous format de type MBA, en particulier le diplôme phare des IAE, c'est le Master Management et Administration des Entreprises, qui a justement cette vocation à former des personnes qui n'ont pas cette expertise en management, mais qui ont déjà une compétence dans un autre domaine et qui voudraient par contre prendre des fonctions à responsabilité de management d'unité ou d'entreprise.
Est-ce que ça veut dire que les étudiants qui s'intéressent à l'IE de Grenoble, ils doivent un peu déjà savoir ce qu'ils veulent faire comme type de métier?
Alors absolument pas, d'ailleurs c'est le conseil qu'on donne à tous les étudiants. Avoir une idée des métiers ou en tout cas des secteurs d'activité dans lesquels on a envie d'évoluer dans le futur, ça c'est un critère évidemment que l'on mesure lors des entretiens de recrutement des étudiants. En revanche, mon prédécesseur avait l'habitude de dire que Grenoble IAE est une auberge espagnole et qu'on peut avoir différents profils. On a des gens qui ont déjà fait de la gestion, d'autres pas. On a des gens qui ont fait de la gestion par morceaux, c'est-à-dire ils ont fait des études, ils sont allés travailler, ils sont revenus faire des études. Et donc tous ces profils en même temps, finalement créent un petit peu notre ADN, c'est-à-dire ce qu'on voudrait faire, c'est que les gens ont des talents, qu'ils se révèlent et puis qu'ils se connectent entre eux, parce que finalement c'est dans la mixité que l'on arrive à développer des compétences individuelles et collectives qui sont plus fortes.
Mmh. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent des autres écoles d'ingénieurs?
Alors oui, dans le Master Management et Administration des entreprises, on a créé depuis plusieurs années, et d'ailleurs avant notre intégration à Grenoble INP, une filière spécifique qui permet en fait d'avoir un double cursus, c'est-à-dire les étudiants sont, et les élèves ingénieurs sont en même temps dans leur cursus d'ingénieur et en même temps dans leur cursus de master. Et ce qui leur permet de gagner un petit peu de temps, hein, pour être honnête, dans la diplomation du master. Et là, on a une filière avec au moins 100 à 120 étudiants par an.
Donc vous avez au total à peu près 1200 étudiants, c'est
oui,
bien ça?
Oui, 1200 à 1300.
300 sont alternants?
Oui.
Et vous avez, d'après votre site, un tiers d'étudiants étrangers,
c'est
internationaux.
Ça.
Ils se répartissent dans des troisièmes années de licence, vous en avez
oui.
5 différentes, et une douzaine de masters.
C'est ça.
Pour les encadrer, vous avez environ 70 enseignants-chercheurs et un volant d'intervenants professionnels, 400, affichés sur votre site. Pour revenir sur les étudiants, est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où ils viennent et quelles sont les tendances en matière de recrutement? Est-ce qu'il y a une forte pression à l'entrée de l'IAE de Grenoble? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques taux de sélectivité à l'entrée de vos diplômes? Et où se passe le recrutement? Est-ce que c'est sur Mon Master, la plateforme dédiée? Est-ce que c'est ailleurs pour les licences?
Alors, l'origine des étudiants, elle est très variée. C'est vrai qu'on est nous sommes un IAE de province, hein, mais quand même déjà un IAE qui a une histoire, 70 ans, on l'a rappelé, qui est très implanté dans son territoire également, mais un territoire où il y a d'autres IAE et d'autres écoles de management non publiques. Et donc, évidemment, il y a une espèce de concurrence, mais qui est aussi une forme d'émulation, hein, pour nous. Donc, nos étudiants viennent quand même majoritairement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mmh. 64% à peu près des effectifs viennent de la région Rhône-Alpes. Et sur la région Rhône-Alpes, on est à au moins 50% de Grenoble. Et puis, évidemment, on a un campus délocalisé à Valence, ce qui fait qu'on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de Drôme et d'Ardèche.
Okay.
De façon marginale, on va avoir des étudiants qui vont venir aussi des Savoies et de Lyon. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi deux très bons IAE à Annecy et puis à Lyon. Donc évidemment, notamment depuis quelques années, on voit que les effectifs savoyards sont en baisse parce qu'effectivement, les étudiants préfèrent aller sur le campus d'Annecy, qui est beaucoup plus proche de chez eux.
Mmh.
Et où ils vont trouver une offre de formation de très bon niveau également et comparable à la nôtre.
Et sur l'évolution des candidatures, alors comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile de
Alors, je ne dirais pas ça, parce que ça dépend beaucoup des programmes, en fait. Hein. On a parlé du DESMA il y a quelques secondes. Le DESMA est un programme hyper sélectif. On offre à peu près 60 places en deuxième année.
Pour combien de candidats?
Pour probablement 15 à 20 fois plus.
Mmh.
Alors, c'est vrai que dans les masters, la sélection, elle se fait normalement plutôt au niveau master 1, ce qui fait qu'on a réduit la taille du programme en master 1, même si on a gardé une taille assez conséquente, avec une 25 à 30 étudiants au maximum en M1, de façon à pouvoir alimenter le M2 aussi avec des profils qui sont recherchés par les entreprises partenaires, et notamment ces fameux profils double compétence, ingénierie et management, qui sont des profils qui aujourd'hui vraiment ont toute leur place sur le marché et sont même recherchés très très fortement par l'ensemble de nos partenaires.
Ça, c'est pour ce master-là. Juste un mot sur les licences, enfin sur les troisième années de licence. On ne peut pas rentrer à l'IAE de Grenoble juste après le bac. Hein.
Non, malheureusement, c'est historique. L'IAE n'a jamais été positionné en post-bac. Et je dirais qu'en tant que directeur, je le regrette un peu maintenant parce qu'on voit bien que le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche a beaucoup évolué. Et d'ailleurs, nous sommes le seul IAE de la région Auvergne-Rhône-Alpes à ne pas être positionné en post-bac. Ce qui met quand même aussi en difficulté le recrutement au niveau des masters, parce que contrairement à certains IAE comme Annecy ou Lyon, il n'y a pas d'alimentation naturelle des programmes de licence vers les masters. Et donc, c'est des projets là, qui sont en cours de développement, sur lesquels je ne peux pas parler plus parce qu'on n'a pas encore véritablement avancé et nos institutions de tutelle ne sont pas forcément non plus très informées. Mais en tout cas, sur la licence, on est en train de la réformer. Voilà, on est en train de voir comment mettre de l'alternance sur le L3 et potentiellement l'intégrer à un parcours post-bac qui pourrait prendre la forme soit d'une licence, c'est peu probable, en tout cas d'un programme type prépa, INP. Et pas plus tard qu'hier, on était en réunion avec des collègues de Grenoble INP pour essayer de voir justement comment construire un programme qui aurait cette double compétence, à la fois technologie et management, et qui permettrait aux étudiants, à la fin de ce cursus de 3 ans, soit de poursuivre dans des masters de l'IAE en management, soit d'intégrer, pourquoi pas, certaines écoles.
Donc une sorte de bachelor.
Alors, bon, nous, on ne veut pas utiliser le terme bachelor parce que, vous savez, il est quand même très controversé, à la fois parce qu'il est utilisé de façon importante par des écoles privées. Donc, on ne veut pas non plus rajouter du trouble aux candidats et aux parents qui, lorsqu'on les rencontre dans les salons d'étudiants, ne savent plus très bien ce que c'est qu'un bachelor, parce qu'il y a à la fois les écoles privées qui utilisent ce terme, mais on voit aussi le BUT, qui est un bachelor universitaire de technologie, mais en même temps un diplôme national. Donc, on préfère pour l'instant se dire qu'on va aller plutôt sur une prépa. Et d'ailleurs, c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on fait déjà à Grenoble INP dans les écoles d'ingénieurs, puisqu'on a une prépa intégrée, Grenoble INP. Donc, on pourrait avoir une prépa intégrée IAE, qui serait sur 2 ans et qui viendrait se raccrocher à notre licence 3 actuelle. Et puis ensuite, soit rentrer dans des masters de l'IAE ou ailleurs d'ailleurs, et puis potentiellement à la marge, intégrer des écoles d'ingénieurs type génie industriel ou l'ENSECUB dans des filières très spécifiques.
Okay. Alors restons sur le territoire grenoblois. À Grenoble, vous l'indiquiez au travers de vos propos précédents, il y a une autre école de management, mais privée celle-ci, est très connue, GEM. Je crois que d'ailleurs, il y a certains profs de l'IAE qui ont contribué à sa fondation à l'époque. Alors, quelles sont vos relations avec elle? Est-ce qu'il y a une espèce de répartition implicite sur le territoire par rapport au public visé, par rapport aux entreprises? Est-ce qu'il y a des différences en termes de contenu, de débouchés entre un étudiant de l'IAE de Grenoble ou un étudiant de GEM?
Alors, vaste question. Je vais essayer d'y répondre de façon courte. Déjà, sur la première partie de la question, les relations avec Grenoble École de Management sont cordiales, mais en fait, elles n'existent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de relations ni sur des programmes communs, par exemple, en termes de pédagogie. Là où on va avoir un des plus petits dénominateurs communs, je vais dire, c'est sur la recherche, où effectivement un certain nombre de collègues de Grenoble École de Management font partie d'un laboratoire de l'université, et donc on peut avoir des collègues qui vont travailler ensemble sur des thématiques bien spécifiques. En dehors de cela, on n'a pas de relation particulière. On est sur un terrain, comme vous l'avez dit, on coexiste sur un territoire qui est relativement petit. Grenoble, c'est une toute petite ville de province, même s'il y a un très fort territoire économique. Une très forte dynamique économique. On coexiste et je pense que on n'a pas eu d'accord implicite ni explicite d'ailleurs sur le partage de qui fait quoi. On a des programmes qui sont en pleine concurrence. On a eu des conflits d'ailleurs parfois parce qu'on a un programme qui s'appelle le DESMA, je l'ai déjà dit. Et pendant un temps, Grenoble École de Management avait aussi un programme qui s'appelait le DESMA, mais pas avec le même intitulé. Et donc, pendant quelques temps, une de mes prédécesseurs s'est un peu battue justement pour la reconnaissance du terme. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de différence. Ça fait partie du choix qu'ont les étudiants et les étudiantes sur le site grenoblois. Finalement, ils ont la chance d'avoir deux établissements de très grande renommée nationale et internationale qui offrent des programmes en management. Ils peuvent aller dans l'une ou l'autre des écoles en fonction de ce qu'ils attendent d'une formation. Alors, en termes de qualité, moi, je pense que la qualité dans les écoles publiques de management, et j'en suis fondamentalement convaincu parce que j'ai moi-même enseigné dans des écoles privées, il y a très longtemps, certes, mais voilà. Je pense que la qualité est tout aussi bonne. Et d'ailleurs, on voit bien, on a des reconnaissances aujourd'hui des IAE par l'intégration dans des réseaux divers et variés.
Alors, l'année dernière, l'IAE de Grenoble est aussi devenue une grande école, mais de façon officielle, au-delà de l'affichage que l'on peut faire, puisque vous êtes le seul IAE qui porte véritablement ce nom, à être entré dans la conférence des grandes écoles, avec sans doute un tout petit peu de difficulté, du fait de votre appartenance à Grenoble INP. Est-ce que ça a changé quelque chose pour l'IAE, et en particulier en matière de recrutement ?
Alors, moi, je voulais déjà remercier quand même la CGE qui nous a offert cette opportunité et l'ensemble des personnes qui nous ont appuyé dans cette démarche, hein, parce que ça a quand même pris un certain temps. Et donc le président de la CGE, précédent président de la CGE, a beaucoup œuvré en tout cas pour qu'il y ait un IAE qui entre dans le réseau, un vrai, un pur, qui porte le nom. Pour l'instant, en termes de retombées, j'avoue qu'on n'a pas vu beaucoup de différences, mais ça vient aussi du fait que, comme on n'est pas vraiment positionné en post-bac, les publics qui pourraient être attirés par des écoles privées en post-bac ou après des classes préparatoires, ça reste quand même un public qui est relativement limité pour nous aujourd'hui, mais c'est un objectif. En tout cas, il est indéniable que l'admission à la conférence des grandes écoles et obtenir le statut de grande école, pour nous, c'est une fierté parce que c'est un gage de qualité. Deux, ça ne peut que augmenter l'attractivité de nos programmes à destination d'un certain type de public. Et puis, bah, évidemment, c'est aussi participer à un autre réseau. Nous, on fait déjà partie du réseau IAE France, comme les 39 IAE. Donc, c'est extrêmement intéressant, enrichissant. C'est un échange de pratiques, etc. On défend aussi la marque des IAE. Mais là, c'est un autre réseau avec un autre type de membres, notamment des écoles privées, mais pas uniquement des écoles privées de management, il y a aussi des écoles d'ingénieurs, des écoles qui sont dans d'autres disciplines, en sciences politiques, etc. Et je trouve que l'échange de pratiques pourrait être en fait très enrichissant pour l'école, même si pour l'instant, ça ne fait qu'un an, on n'a pas encore participé aux différentes commissions que propose la CGE.
On n'est pas encore tiré parti complètement de votre
entrée. Je pense qu'on a tout à tirer, à tout à faire encore, tout à construire dans les prochains mois et les prochaines années.
Alors toujours en termes de reconnaissance, vous êtes aussi en quête d'une accréditation internationale et CSB, je crois comme beaucoup d'IAE. En quoi est-ce important dans votre stratégie? Vous êtes un établissement public, donc a priori vous n'avez pas une problématique de reconnaissance majeure. Et qu'est-ce qu'en attend l'IAE de Grenoble?
Alors, on n'a pas de problème majeur d'attractivité, si ce n'est quand même qu'on est dans un univers, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est de plus en plus concurrentiel, avec une diminution annoncée des effectifs, hein, puisqu'on annonce moins 5% de bacheliers dès l'année prochaine, et avec un nombre de compétiteurs, d'organismes sur le marché qui est presque de plus en plus important. Donc, nous, notre objectif au travers de l'accréditation ACSB, c'est une reconnaissance évidemment de la qualité des programmes que l'école délivre, hein, même si effectivement, on a déjà la CGE, on fait partie du réseau IAE France, on a un certain nombre d'accréditations nationales. Mais comme dans les ambitions de l'école, c'est aussi d'être une école internationale avec beaucoup de programmes à l'étranger. Le fait que d'obtenir une accréditation internationale, c'est aussi pour nous une opportunité d'attirer des étudiants étrangers de très bon niveau et aussi de créer des programmes délocalisés, puisqu'on le fait déjà. Et on le voit bien dans les salons internationaux auxquels on participe. On voit déjà que quand on va voir certains partenaires, la première question qu'ils nous posent, c'est « Êtes-vous accrédité ?» Et quand la réponse est non, eh bien c'est « Ok, bah revenez nous voir quand vous aurez une accréditation. »
Et alors, vous en êtes où?
Alors, le processus est toujours en cours. C'est un processus qui a été très long, puisque je pense que la première réflexion autour des accréditations doit dater d'avant 2010. Hein. Et le lancement du processus de candidature a été fait par mon prédécesseur dès son premier mandat, donc je pense en 2012. Alors là, on est vraiment dans une étape un peu clé, hein, puisqu'on vient d'avoir nos trois premiers rapports de progression et on est en train de construire le rapport final. L'objectif pour nous et pour moi, en tant que directeur de l'école, ce serait d'obtenir l'audit d'accréditation pour la fin de l'année 2026 ou au premier trimestre de l'année 2027, ce qui coïnciderait avec à peu près la fin de mon mandat, qui me permettrait de laisser à mon successeur ou à ma successeur un dossier qui sera plus qu'un suivi de la mise en place de l'accréditation, mais pas, pas l'affaire elle-même.
Il aurait fallu 15 ans pour l'obtenir.
Oui. Très long, très long processus, parce que la finalité pour nous n'était pas du tout d'être accrédité pour l'attractivité, attirer de meilleurs étudiants ou étudiantes, mais au contraire, l'IAE était un petit IAE de province avec un certain nombre d'étudiants, des mentions de master. À l'époque, on devait avoir 4 masters qui fonctionnaient en silo, sans aucune harmonisation en termes de processus, d'objectifs pédagogiques, etc. Et l'avantage de cette accréditation, c'est une démarche qualité, en fait. ACSB n'impose rien. Elle impose des standards, une réflexion cohérente qui est orientée autour de la mission que l'école veut se donner. Et l'avantage, de mon point de vue, ça a été justement de structurer l'école, d'en faire une école intégrée avec des processus qui sont plus clairs, mieux définis.
Process qualité, quoi.
Et qui permettent de donner du sens à ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que la culture universitaire, et pourtant nous sommes des écoles de management, mais on ne s'était jamais posé la question de pourquoi on existait. Mmh. On était là parce qu'on était à l'université, c'était tout à fait légitime et normal. Le fait de se reposer le sens et d'être capable d'expliquer à des étudiantes ou à des étudiants, à des diplômés, à des entreprises, le pourquoi on fait quelque chose et comment on le fait, moi je trouve ça extrêmement enrichissant pour
moi. Alors justement, sur ce que vous faites et pourquoi vous le faites, mais surtout ce que vous faites, je voudrais revenir sur la dimension adossement à un groupe d'écoles d'ingénieurs. On entend dire pas mal dans le milieu qu'il y a de moins en moins de différences entre les business schools et les écoles d'ingénieurs. Il y a même un directeur de l'ESCP récemment qui a dit dans EF Info que dans 20 ans, il pensait qu'il n'y aurait plus de différence entre les deux objets parce que les compétences requises sur le marché du travail seraient finalement allées se rejoindre pour les étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, vu de votre fenêtre de Grenoble, qui est lui-même un écosystème très, très scientifique ?
Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Léo, parce que je pense que dans 20 ans, il y aura encore des écoles d'ingénieurs et des écoles de management. En revanche, là où il a raison, c'est que les métiers évoluent. Quand on fait de la technologie, quand on est ingénieur, on a de plus en plus besoin de compétences en management. D'ailleurs, les écoles d'ingénieurs l'ont très bien compris. Ça fait de nombreuses années que les écoles d'ingénieurs ont intégré dans leur programme, dans leur cursus, ce qu'ils appellent des humanités. Donc, évidemment, dans les humanités, il y a du management, dont de la gestion. Il peut y avoir des sciences humaines et sociales, de l'économie, etc. Donc, pour eux, c'est un ensemble un peu vaste, un peu informe. Et dans les écoles de management, notamment dans certaines disciplines, ben c'est vrai qu'on tend quand même avec une intégration de la technologie. Alors, on peut parler de l'intelligence artificielle, mais pas que, hein, le big data en général, que ce soit dans la finance, le marketing. On voit bien que les compétences technologiques, alors pas forcément en termes de programmation, on ne va pas transformer nos étudiants de finance ou de marketing en informaticiens de la finance. Il y a des écoles d'ingénieurs spécialisées pour ça. Et d'ailleurs, nous avons un programme commun avec une des écoles de Grenoble INP en finance quantitative. Mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'ils soient en capacité de comprendre cette technologie, notamment l'IA, comment ça fonctionne.
Tout à fait.
Et pas d'être des usagers bêtes et méchants qui appuient sur des prompts ou lancent des prompts et puis attendent que le résultat arrive. Donc, il va y avoir forcément, à un moment ou à un autre, une nécessité de cette double compétence ou de compétence croisée. Nous, on avait utilisé un terme il y a quelques années avec Christian De Félix, mon prédécesseur, qui était la fertilisation croisée. C'est-à-dire on s'enrichit mutuellement, finalement, des compétences et de la culture des autres.
Est-ce que c'est ça, à votre avis, que les ESCP ou les Audencia veulent faire quand elles disent qu'elles vont créer des écoles de la tech ?
Alors, moi, j'ai vu un petit peu, effectivement, le projet qui est porté par l'ESCP, notamment sur son bachelor. Je pense que c'est un peu ce modèle-là, effectivement, c'est-à-dire de former des étudiantes ou des étudiants qui vont avoir cette capacité à comprendre les enjeux des deux côtés, à la fois l'enjeu managérial ou l'opérationnalisation éventuellement d'une idée, et de bien comprendre les aspects technologiques. Parce que c'est vrai que les employeurs le recherchent. La région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, met énormément de moyens financiers aujourd'hui pour former davantage ce qu'ils appellent non pas des ingénieurs, ça évidemment ils mettent de l'argent sur la table pour des ingénieurs, mais aussi pour des assistants ingénieurs. Et pour moi, le profil assistant ingénieur, c'est quelqu'un qui comprend très bien les enjeux de la technologie, qui est capable d'expliquer la technologie, mais qui n'est pas forcément capable de la mettre en œuvre. Parce que les compétences quand même scientifiques dans les filières d'ingénierie sont quand même très très importantes. Je doute qu'en 3 ans, on soit en capacité de former réellement des experts du management et de la technologie
et
en même
ingénieurs,
temps.
Tout voilà. À fait.
Alors, en préparant cet entretien, vous avez demandé ce qui vous occupait le plus en ce moment, alors au-delà de l'ACSB, du HERES, des problèmes quotidiens et j'en passe. Et vous nous avez répondu qu'au-delà de tout ça, c'était les sujets de transition et d'inclusion, en particulier au niveau de votre conseil d'école, puisque vous avez fait rentrer des représentants des animaux et de la nature dans votre conseil. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement ce concept ?
Oui. Alors, nous ne sommes pas les premiers à avoir fait ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de fondations ou de grandes entreprises qui ont fait entrer les représentants du monde vivant non humain, puisque c'est le terme exact qu'on utilise en général, dans leur gouvernance. Grenoble IAE, au travers de 2 personnes, a participé en fait à la Convention des entreprises pour le climat sur le parcours Alpes en 2024. Et on a réfléchi avec des entreprises de notre écosystème, mais aussi avec d'autres écoles d'ailleurs privées de management ou même des écoles d'ingénieurs, sur le rôle finalement d'une école universitaire de management pour faire évoluer nos modèles de management, nos modèles de pensée, nos modèles d'affaires vers une prise en compte plus forte du vivant non humain. Et donc, un des éléments de notre stratégie des DRS ou transition, ça a été de changer notre gouvernance et de donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais, c'est-à-dire la nature et les animaux. Alors ça peut paraître étrange, hein, mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir un regard.
Ça marche.
Alors, c'est très récent, ça fait un an. Hein, mais objectivement, je pense que, y compris d'ailleurs les représentants des entreprises plus traditionnelles, on va dire, de notre conseil d'école, ça apporte un peu de fraîcheur, un regard différent. Et surtout, ça peut nous mettre en garde sur des décisions qu'on peut prendre et qui vont avoir un impact négatif sur notre écosystème. Je prends l'exemple de notre stratégie de développement international. Clairement, l'impact carbone d'un programme délocalisé en Chine, par exemple, n'est pas tout à fait égal à zéro. Et donc, les représentants du vivant non humain nous ont un petit peu titillé, alerté sur cet impact.
Qui sont-ils, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, mais qui sont-ils ces gens qui parlent pour le vivant non humain alors ?
Alors, on a proposé à une personne, donc deux personnalités grenobloises, une première qui est un représentant d'une société très connue de Grenoble et que tout le monde connaît, qui est la société des Chartreuses Diffusion, donc qui diffuse, produit et diffuse, entre autres, l'excellente liqueur des Pères Chartreux. Et puis une personne qui est avocat de la nature et en plus très très impliquée dans un certain nombre d'associations animalières, dont la SPA, la LPO, etc. Et donc c'est une vraie chance pour nous, même si c'est vrai qu'eux-mêmes se sont posé la question de qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir apporter. Je crois pouvoir les rassurer en disant qu'ils nous apportent beaucoup avec ce regard que nous, on a parfois, mais pas toujours. Pour avoir fait la CEC, je l'ai un peu plus, je suis beaucoup plus sensibilisé, je vais dire, que la moyenne des Français. Par contre, dans mes équipes, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut embarquer plus de gens possible, non pas pour faire que Grenoble IAE devienne un repère d'intégristes de l'écologie, comme j'ai pu lire récemment dans un article du Figaro, même si ce n'était pas une école publique de management qui était visée, mais des écoles plutôt privées et celles qui font partie du top 10. Mais c'est pas parce qu'on a une visée régénérative, qu'on cherche à contribuer à un monde meilleur, plus juste et respectueux du vivant, qu'on est forcément des écologistes purs et durs.
Voilà. Tout à fait. Philippe Protin, je vous coupe puisqu'on est obligé de conclure ce podcast. Quand même, la dernière question, peut-être ce sera lié d'ailleurs à ce thème-là, un conseil de lecture que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs qui nous ont fait l'amitié de rester jusque-là.
Alors, moi, j'ai réfléchi un petit peu, mais c'est venu assez rapidement. J'ai un livre que j'adore, que j'ai lu il y a très longtemps, mais que j'ai relu plusieurs fois dans ma longue vie maintenant. La première fois que je l'ai lu, j'avais 20 ans, et c'est « Le jeu des perles de verre » d'Hermann Hesse. Donc, avec un très beau chemin initiatique. Alors, ce n'est pas le livre le plus facile à lire d'Hermann Hesse, puisque les gens ont plutôt l'habitude de lire Siddhartha ou Démian ou d'autres ouvrages qu'il a écrits. Mais moi, je trouve qu'en plus, dans le monde dans lequel on vit en ce moment, hein, qui ressemble beaucoup à la période à laquelle il a écrit ce roman autobiographique des années 30, hein, l'entre-deux-guerres, la montée du nazisme, je trouve qu'il y a un parallèle assez fort avec l'incertitude dans laquelle on vit en ce moment, le rejet des autres, l'exclusion, le manque de confiance, la complexité, qu'elle soit géopolitique, économique, etc. Je trouve que ce chemin initiatique qui nous est offert au travers de ce roman et le héros qui explique toute sa vie, je trouve ça vraiment très intéressant, et a fortiori pour un universitaire, parce que ce roman initiatique, il raconte le parcours de formation de quelqu'un qui devient un jour un maître, le maître du jeu des perles de verre, qui est un jeu philosophique, qui allie les mathématiques et la musique. Et donc je trouve que dans le monde actuel, ça peut donner aussi pas mal de pistes pour lire le monde actuel et essayer de réintégrer un petit peu d'inclusion.
Merci beaucoup Philippe Protin, directeur de l'IAE de Grenoble, pour ce conseil ambitieux, mais certainement nécessaire, de lecture. Merci de votre venue au Studio Module aujourd'hui pour ce premier passage de Grand Oral, et merci aussi à vous, Jérôme Cabi. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité, et d'ici là, portez-vous bien.